mieux comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Mais avec Martin Carly, pas besoin d'expliquer longtemps. L'explication est souvent assez facile à comprendre. Bonjour Martin,
rebonjour. Salut, rebonjour.
Et là, je suis contente parce que tu me parles du pessimisme.
Oui.
Et je suis contente d'apprendre que les gens qui sont pessimistes ne sont pas de mauvaise foi. C'est un dérèglement dans leur cerveau, apparemment.
Oui, ben la source du pessimisme aurait été identifiée dans une région du cerveau particulière, qui est le noyau caudé. C'est une région qui a un impact sur bien d'autres régions, notamment sur tous les circuits à dopamine. On parle souvent de la dopamine, qui est un neurotransmetteur très important, notamment au niveau du système de récompense dans notre cerveau. Donc, le noyau caudé, c'est une région du cerveau, donc il y a ses ramifications un peu partout et qui joue un très grand rôle dans notre cerveau, notamment au niveau de la prise de certaines décisions. Les décisions où on doit peser le pour et le contre. Hein? Donc, et souvent, il y a des émotions qui sont associées à ces décisions-là.
Ils vont peser seulement le contre?
Ben, exactement. Ouais, ouais. Exactement. Ah, lorsqu'on stimule cette région-là, on se rend compte que les animaux dans l'étude, eh bien, vont souvent se concentrer sur les effets négatifs de leurs décisions plutôt que de dire ben, le bénéfice est intéressant, donc on va prendre cette décision-là. Alors concrètement, avant de vous parler des conséquences puis du suivi qu'on peut faire à partir de ça, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont installé des électrodes dans cette région-là du cerveau chez des rats. Et donc, ils pouvaient, avec une simple impulsion électrique, stimuler ou pas cette région-là. Donc, si on n'envoie pas de signal électrique, on la stimulera pas. Parce que, je le rappelle, le cerveau fonctionne beaucoup par signaux électriques entre les différentes cellules. Et ces animaux-là étaient récompensés par une ration de jus sucré, mais en même temps, ils recevaient un puff d'air, comme ça, une bouffée d'air dans la face. Donc,
il y avait comme un cadeau, pas de cadeau.
C'est ça. Okay. En même temps, il y avait les deux. Hein? Il y avait le boule fun, mais le boule fun, vous n'avez qu'un boule pas le fun de recevoir
ça,
un.
Ça arrivait en même temps.
Les
là.
Deux, exactement. Okay. Et le ratio entre les deux était varié par les chercheurs. Donc, il y a des moments où la récompense était bien meilleure que l'inconvénient, puis d'autres moments où c'était l'inconvénient qui était pas mal plus grand.
Place.
Donc, la bouffée d'air était pas mal plus grosse que la mini goutte de jus qu'il pouvait avoir. Okay. Pour ça. Et les rats, ben, ils apprenaient à décider est-ce que ça valait la peine à ce moment-ci de la prendre, la récompense
ou est-ce que
pas.
J'arrête?
Exactement. Ouais. Donc, ils étaient carrément capables de prendre une décision en fonction du ratio entre le plaisir et le déplaisir qui venait avec ce qu'on leur proposait. Et là, ce que les chercheurs ont observé, c'est que lorsque le noyau caudé était stimulé électriquement, eh bien, des décisions qu'ils auraient acceptées avant, ils ne les acceptaient plus. C'est donc comme s'ils se disaient, ouais, ben finalement, la pof d'air, là, m'énerve plus que je pensais. Et tout d'un coup, ils deviennent négatifs, ils deviennent pessimistes. C'est comme s'ils grossissent l'importance du déplaisir associé à.
Okay, tellement qu'ils vont oublier le plaisir que leur procurait
le jus.
Et là,
ils prennent plus, là, ils veulent plus, là, ça les tente plus d'aller prendre le jus parce qu'ils trouvent que finalement l'inconvénient est encore plus gros qu'avant tout d'un coup. Donc, ils deviennent pessimistes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que leur pessimisme dure environ une journée. Donc, même une fois qu'ils ne les stimulent plus au niveau de cette région-là du cerveau, ils continuent à prendre des décisions pessimistes toute la journée. Hey. Exactement. Et ça finit par s'estomper. Alors, pourquoi c'est important ça? Parce que premièrement, ces chercheurs-là ont pu vérifier que oui, chez des patients qui ont de l'anxiété ou de la dépression, et ainsi de suite, on voit une certaine anomalie au niveau des ondes cérébrales dans cette région précise-là du cerveau. Donc, il semble avoir une corrélation chez l'humain par rapport à ces résultats d'études-là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ben, ça peut ouvrir une nouvelle piste de traitement pour des choses comme l'anxiété, la dépression, parce que ça, si notre prise de décision devient affectée par ces états-là, ben, et si on est capable d'agir sur une partie du cerveau pour limiter les impacts qui sont très handicapants de ces problématiques-là, anxiété, dépression, bien, on pourrait avoir des individus qui souffrent moins de ces problématiques-là.
Mais moi, ce qui me fascine, Martin, c'est que, tu sais, le pessimisme, c'est comme un trait de caractère, tu sais.
Oui.
Tu disais, bon, même quelqu'un pourrait avoir considéré que le fait d'être pessimiste est un défaut, tu sais.
Oui.
Ça veut dire que des choses qui sont des traits de caractère pourraient ne plus être des qualités et des défauts, mais peut-être des choses reliées à la fonction du cerveau, tu sais.
Oui, ben,
tu comprends ce que je veux dire, là?
Ça,
la générosité pourrait éventuellement faire partie des cerveaux de certaines personnes puis être moins présente dans le cerveau d'autres.
Oui, ben c'est ça. Effectivement, ces traits de caractère-là sont codés par la composition de notre cerveau, par la connectivité entre nos neurones dans notre cerveau et tout ça. C'est sûr que c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, même pour les chercheurs en sciences neurologiques. J'en étais, c'était mon expertise, parce que ça devient difficile d'identifier la source biochimique de concepts qu'on définit pas toujours très bien, là, tu sais, de dire c'est quoi l'empathie, c'est quoi la générosité, c'est quoi le pessimisme. Ça devient après ça difficile de demander à des biochimistes, ben, faites-vous trouver d'où ça vient quand on a de la difficulté à le définir,
exact,
tu sais.
Exact.
Et ça, c'est pas évident. Mais dans un cas comme ça, évidemment, on parle pas évidemment de trouver un traitement pour tous ceux qui sont pessimistes. On parle plutôt d'essayer de limiter les impacts de troubles comme l'anxiété, la dépression, qui là,
dans notre société,
la qualité de vie,
tout à fait,
là, vraiment,
effectivement.
Ouais.
Bon, on a beaucoup parlé ces dernières années, Martin, des bienfaits du travail à la maison.
Ouais, les bienfaits, ouais.
Ben pourquoi là, tu vas nous défaire ça ce matin là?
Ben un peu.
Qu'est-ce qui est
oui.
mauvais dans le travail à la maison?
Ben c'est ça, c'est que le travail à la maison, évidemment, il y a plein d'études qui ont montré que le travail à la maison est quand même une source d'anxiété, et non seulement une source d'anxiété pour la personne, donc l'employé, mais pour les membres de la famille aussi. Parce que quand tu es chez toi en train de travailler, si ton travail te stresse, ben t'as pas des bonnes relations avec les autres membres de ta famille. Donc, eux aussi sont affectés par ça. Hein? Et donc, ça, c'était quand même assez bien connu qu'il y a une certaine anxiété, il y a un certain stress qui s'installe avec le fait de travailler à la maison.
Sans cadre aussi, tu sais.
Ouais, ben ouais, c'est ça. Et là, ouais. Je vais y venir. Okay. Là. Je vais venir de l'espèce d'effet pernicieux de ça.
Okay, oui.
Mais là, c'est une nouvelle étude a été présentée qui nous dit que même si on ne travaille pas à la maison, le fait d'être en mode « je travaille à la maison », donc par exemple de surveiller nos courriels au cas où un courriel relié au travail entrerait tout d'un coup pendant la soirée, par exemple, eh bien ça génère la même anxiété, le même stress. Donc c'est le simple fait d'être dans un mode où « je pense travailler à la maison » qui crée cet état d'anxiété, cet état de okay. stress, et qui peut après ça se répercuter sur tous les membres de la famille, pas seulement sur nous. Donc ça a des impacts, selon l'étude, sur notre santé, sur notre bien-être, mais aussi sur la santé et le bien-être des autres personnes dans la famille. Donc ça, c'est pas très le fun. Et pourquoi je dis que c'est insidieux? C'est parce qu'on a... tu sais, les gens sont pas si fous que ça, là. Quand on présente ça, le travail à la maison, qu'est-ce qu'on dit du travail à la maison? On dit, ben, c'est plus pratique, ça nous rend plus autonomes. Tout d'un coup, on a un meilleur contrôle sur les limites entre le travail et la vie de famille.
Ben, c'est ça, conciliation travail-famille. C'est
voilà,
souvent des premiers
qu'on a
éléments,
plus de contrôle. Mais la réalité des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'essentiellement, on travaille tout le temps. Donc, t'es chez toi, tu travailles encore. Et ça, c'est une belle façon pour les entreprises de dire, ben, tu vas continuer à travailler même chez vous,
c'est
là.
Quand ta maison, c'est ton bureau, aussi, parce que c'est un plaisir, tu sais, passer la semaine au travail, puis le vendredi soir, revenir à la maison.
Ouais, dire, okay. Exact.
Mais
c'est ça. Donc là, les chercheurs proposent deux choses. Premièrement, au niveau société, ça serait le fun de revisiter ça un petit peu, puis se dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut des gens plus anxieux tout le temps? Donc, tu sais, ceux qui ne... Je veux dire, il y a des gens qui vont se retrouver avec des problèmes de santé réels et diagnostiqués, et ainsi de suite, d'être dans un constant... un état constant d'anxiété ou de stress, là. Donc ça, c'est pas super le fun. Peut-être au niveau de la santé publique, c'est pas tout à fait intéressant, ça, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait peut-être créer des politiques qui diminuent le fait d'exiger comme ça d'un employé qui soit chez lui encore en attente de pouvoir régler des problèmes du travail, de un. De deux, on pourrait peut-être limiter aussi, l'entreprise même pourrait limiter les périodes à la maison de disponibilité. Par exemple, de dire, ben entre telle heure et telle heure, t'es pas disponible, mais mettons cette heure-là, là, tu pourrais peut-être aller voir tes courriels et régler des trucs. Là. Donc, de mieux encadrer plutôt que de dire, t'es disponible tout le temps, même à 2 heures du matin quand tu te réveilles. Et finalement, peut-être expliquer ou mettre clairement noir sur blanc dans la description d'un poste, c'est quoi les attentes, y compris au niveau du travail à la maison. Donc, de dire, tu sais, quand t'es chez vous, on s'attend à ce que tu répondes à tes courriels, et ainsi de suite, ou pas. Donc, ça serait peut-être plus clair plutôt que de nager dans l'ambigu. Là.
Le feeling que tu sais de quoi tu parles, tu dois travailler beaucoup chez
vous. Moi, je suis un travailleur autonome.
Ben,
oui,
sûr,
je ne fais que ça.
Ouais.
Hein, mais je fais que ça, mais j'ai pas vraiment de boss qui m'envoie de courriel ou rien. Je suis travailleur autonome. Mais oui, je ne suis que dans ça, bien entendu. ce qui m'amène à quelque chose dont tu as parlé tantôt avec la psychologue Stéphanie.
Avec Stéphanie, ouais.
Parce que là, on parlait de méditation, tu as parlé tantôt même d'un camp et ainsi de suite. Les auteurs de l'étude suggèrent aussi de pratiquer ce qu'ils appellent maintenant le mindfulness aux États-Unis, la pleine conscience. Donc, d'être capable, c'est un peu de la méditation, mais de vivre le moment présent. Donc, d'être, de se concentrer sur sa respiration, sur la visualisation, ainsi de suite, pour être capable, quand on est, par exemple, à la maison avec sa famille, de vraiment être à la maison avec sa famille, non pas d'avoir la tête encore au travail, de dire le courriel y arrive quand. Là, c'est ça, finalement.
Bon, il nous reste un petit sujet que je tiens à ce qu'on aborde,
ouais,
parce qu'il est question...
C'est un peu dans le même sujet encore, un peu.
Oui, ben, il est question d'empathie.
Ouais.
Et moi, je dis souvent que si le monde était plus empathique, généralement, on aurait tellement une belle société. Et ça manque. Ça...
Ben,
non plus ça va, moins je trouve les gens sont empathiques.
Oui, puis... La question, c'est, ça peut-tu s'enseigner l'empathie? On peut-tu entraîner des enfants à devenir plus empathiques ou avoir plus de facilité à être empathique? Pourquoi? Parce que l'empathie, c'est la première étape qu'on appelle pro-sociale. Donc, pour devenir un bon citoyen, quelqu'un qui est prêt à aider un autre individu, à aider les autres, à se mettre dans les souliers, dans la tête d'un autre individu, ben, c'est l'empathie qu'il faut commencer par développer. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est grâce à une subvention de la fondation de Bill et Melinda Gates, là, donc le fondateur de Microsoft, bien entendu, et son épouse, eh bien, il y a un jeu vidéo qui a été développé et qui permet d'enseigner l'empathie à des enfants qui sont à la fin du primaire. Et
ça,
c'est fantastique pour deux raisons. La première raison, c'est que ils ont besoin de se faire entraîner comme ça à l'empathie pour les raisons que tu as mentionnées, parce que au niveau de la société, on va tous s'en porter mieux, bien entendu.
Oui, parce que là, on développe des narcissiques, là.
Exactement. Oui. Donc, on veut ça. Et deuxièmement, l'intérêt ici, c'est qu'on est en train de démontrer qu'avec des jeux vidéo, on est capable de développer des vertus, des qualités qui sont intéressantes, ce qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à maintenant. On associe souvent les jeux vidéo à des choses négatives.
Ouais.
Donc ça ici, ça semble fonctionner. Et donc, les enfants qui devaient simplement reconnaître les émotions sur le visage d'extraterrestres qui doivent les aider à reconstruire leur vaisseau.
Développer des liens et
c'est
de
ça,
l'empathie.
Le langage, ils n'étaient pas capables de comprendre le langage des autres personnages, mais ils comprenaient leurs expressions. Donc, ils devenaient plus empathiques. On l'a même vérifié par résonance magnétique, ça fonctionne.
C'est vraiment intéressant, mais en même temps, c'est représentatif d'un problème de société.
Ouais, ouais.
On soit obligé de développer des jeux pour nous apprendre l'empathie. Tu sais.
Un bon truc à la maison, là, je vous laisse là-dessus, si vous voulez savoir si quelqu'un d'autre est empathique, bâillez. Et si l'autre personne bâille à son tour, mais souvent, c'est un signe d'empathie. Donc, vous allez voir la contagion du bâillement.
Okay,
là,
mais essayez-le
c'est
partout.
Une preuve d'empathie.
Les gens qui baillent moins, donc
c'est
ils baillent
pas. C'est peut-être des tueurs en série.
J'exagère un peu.
Ben oui.
Super, merci beaucoup, Martin Carlier. À la semaine prochaine. Bye.